Ça me fait plaisir d'accueillir pour sa première visite à Toronto le cinéaste suisse Franz-Josef Holzer. Bonjour Franz-Josef.
Bonjour.
J'espère que ça va vous donner le goût de revenir, ce passage à la radio de Radio-Canada.
Ça a très bien commencé.
Ça a très bien commencé. Ouais. Vous êtes ici pour nous présenter votre premier long métrage, L'Écart, un film qui, je résume très rapidement, raconte l'histoire d'Antoine qui se réveille un matin et il est convaincu que la femme qui dort près de lui, même si elle est en tout point pareille à son épouse, n'est pas son épouse. Et ça, c'est l'énoncé de départ. Mm-hmm. Et apparemment, c'est une réelle pathologie médicale, ça.
Oui, ça existe. Il y a des gens qui ont ce genre de problème.
Et ça n'a rien à voir avec l'amnésie, parce qu'il se souvient de tout en dehors.
Exactement, de... ouais. En fait, c'est très particulier. C'est très, très fin comme problème, mais qui a des répercussions après énormes.
Ouais, ben,
La personne, elle a aucun déficit qu'on peut déceler. Il se rappelle de tout. Il a tous les souvenirs. Il a toutes ses capacités intellectuelles. Mais il a ce petit décalage où il n'arrive plus à reconnaître la personne en tant que personne proche. Même si elle ressemble en tout, et il le remarque. Il peut même dire, elle est identique en tout, mais c'est pas la bonne.
Ouais.
Donc comme ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est en face d'une personne dont on sait qu'il a un frère jumeau, une sœur jumelle, et là on a aussi ce décalage, on ne sait pas à qui on a affaire, même si tout est là pour reconnaître.
Et ça, je pense que c'est en partie ce qui vous a fasciné, le lien que vous faites avec la gemellité, et aussi par rapport à l'authenticité aussi. Ce sont des questions qui vous ont fasciné et qui vous ont amené un peu à nous proposer ce film.
Voilà. Parce que finalement, la reconnaissance d'une personne par son extérieur ou par son vécu, par son passé, n'importe, ça c'est qu'une partie peut-être compréhensible de la reconnaissance. Après, il y a une autre reconnaissance qui est peut-être... on peut peut-être appeler émotionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on reconnaît émotionnellement une personne, est-ce qu'elle déclenche ce qu'on pense qu'elle devrait déclencher émotionnellement pour qu'on puisse dire oui, c'est ma femme ou c'est pas ma femme, ou c'est pas mon ami ou mon mari. Et je pense que cet élément-là, il est crucial, il est essentiel et il est au-delà de la reconnaissance purement technique d'un personnage ou d'une personne.
Et dans le cas de ce problème médical-là, le fait que la personne que vous soumettez à un interrogatoire assez serré dans votre film, parce que à un certain moment donné, il lui pose des questions, il la met au défi de prouver qu'elle est bien Elisabeth. Donc, dans le cas de même si elle accumule les preuves en sa faveur, il ne croit toujours pas que ce soit elle.
Non, il n'arrive pas à vaincre ce doute, il n'arrive pas à le surmonter et à rétablir ce lien avec elle. Bon, pour lui, c'est un parcours très tragique parce qu'il n'arrive pas à ressentir ce qu'il devrait ressentir. Donc, il est dans ce décalage. Avoir d'un côté un souvenir de l'émotion qu'elle a pu susciter et ce que fait la personne qui est en face de lui. Un peu ce qui nous arrive à nous lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on n'aime plus alors qu'il a encore tout. Et c'est encore la même personne qu'on a aimée, mais on ne l'aime plus. Et il y a cette distance, il y a cette étrangeté qui s'installe et qui nous fait prendre qui change notre regard sur la personne.
Et en général, on essaie de trouver le courage de le dire, alors que dans le cas d'Antoine, ce n'est pas possible de faire ça parce qu'il se croit un peu victime d'une forme de machination. Il dit « Rendez-moi ma femme, vous avez déposé un sosie en lieu et place de ma femme. » Il a encore... dans ses souvenirs, ses sentiments amoureux pour cette personne-là.
Voilà. Peut-être la différence entre lui et la plupart de nous, c'est qu'il est tellement obsédé et paranoïaque qu'il n'arrive plus à faire marche arrière. Et une fois, il s'engouffre en quelque sorte dans cette quête qui va le mener très loin et qui va mener le couple très loin. Et je pense la plupart du temps, j'espère au moins pour les auditeurs et pour nos vies à nous, qu'on arrive à freiner cette machinerie une fois déclenchée par peut-être une autre sortie, peut-être par la rupture. Lui n'arrive pas à consommer ça, sa femme d'ailleurs non plus, raison pour laquelle l'histoire a lieu et le drame a lieu.
Ouais, et effectivement c'est dramatique parce qu'il y a ces petites questions, ces petits tests, ces petites mises à l'épreuve au début, mais ça devient malicieux, ça devient organisé et ça prend des proportions terribles aussi. Et ça ne fait pas que détruire le couple. On voit à quel point, c'est un peu comme des ronds dans l'eau. Il y a des répercussions sur la vie de tous ceux qui entourent ces gens-là.
Voilà, absolument. Disons, c'est d'ailleurs une remarque qui revient souvent, on me dit, mais pourquoi son entourage, son ami, le psychiatre, tous ces gens autour n'arrivent pas à mieux intervenir, à le saisir, à le retenir ou à le psychiatriser.
Ouais.
Ça m'a toujours surpris, ces remarques, parce que souvent autour de moi, quand je vois quand quelqu'un va mal, il est à la dérive, il y a souvent personne qui a les moyens, le courage, l'assurance pour s'interposer et dire maintenant stop, c'est fini, tu ne vas pas plus loin, maintenant je vais t'amener moi personnellement chez le psychiatre ou en institution psychiatrique. Ça n'arrive presque jamais, il faut souvent que ça va très très loin. Les époux souvent sont les dernières à avoir les moyens pour arrêter une machinerie comme ça. Lorsqu'un mari tombe malade ou a un problème, c'est peut-être pas tout à fait la même chose lorsque c'est l'inverse, c'est-à-dire quand la femme tombe malade. John Cassavetes, par exemple, dans son film « Woman Under Influence », l'a montré là. Le mari, il est peut-être plus amené à consommer une sorte de rupture et à demander de l'aide extérieure et psychiatriser sa femme. Dans l'autre sens, les femmes, souvent, elles sont très, très permissives. Elles sont démunies, mais aussi très permissives dans le sens qu'elles pensent qu'elles vont peut-être pouvoir trouver une solution, elles. Et soigner leur mari. Et du coup, ça peut aller très loin, jusqu'à des scènes très, très difficiles.
On est romantique, on s'imagine que l'amour viendra à bout de tout. Hein?
Absolument. Et c'est exactement ce qui lui manque à lui. C'est pas l'amour pour l'idée de sa femme qui lui manque, mais l'amour pour la véritable qui est en face de lui. Et ces deux amours sont dissociés. C'est plus, je pense, notre vie à nous tous veut qu'on doit gérer ce décalage entre l'amour pour l'idée qu'on a de son partenaire et le vrai amour ou l'amour qu'on a pour la vraie personne. Et ce décalage-là, c'est une tension qui se crée au jour du jour et puis il faut essayer de le maintenir lié.
Vous y êtes arrivé?
Je travaille dessus.
Vous avez mentionné John Cassavetes et vous êtes quelqu'un qui aimait le cinéma. Vous avez des, je dirais pas des mentors, mais des idoles, des gens qui ont forgé un petit peu votre identité de cinéaste. Mmh. Et je dirais qu'il y a des références à ces gens-là dans votre film, d'une certaine façon.
Ouais, j'ai tenu à leur rendre hommage. Moi, j'ai considéré mon film comme une sorte de ma petite participation, une sorte de discussion avec ces réalisateurs et ces films. Donc, je ne pouvais pas concevoir ces films indépendants de tout, comme s'il était seul. Il discute, il reprend des éléments, il répand peut-être. Et puis, il y a peut-être un élément pour moi qui était important. Dans tous les films que j'ai vus, revus et travaillés avant la fabrication du mien, lorsqu'on parle de gémellité, il y a une véritable gémellité présente à l'image qu'on voit dans tous ces films. Et dans le mien, je me suis donné comme une sorte de défi de dire je vais parler de la gémellité sans la montrer à l'image. Ce qui est une sorte de difficulté, peut-être maintenant aussi pour le spectateur, de dire mais il prétend tout le temps qu'il en a une deuxième, elle est où? Je veux la voir. Alors qu'elle n'existe que dans son fantasme à lui. Mais c'est peut-être ma petite participation à ce discours sur la gémellité au cinéma.
Et c'est pas pour rien non plus que votre personnage, Antoine, s'appelle Frégoli. Ça aussi, c'est une autre référence.
Absolument. Disons, ça, c'est des petits jeux de scénaristes qui s'amusent. Pour le film en soi, ça n'a pas une énorme importance. Après, pour ceux qui veulent savoir un peu plus, ils peuvent fouiller, ils peuvent trouver des choses. Frégoli, c'était un grand transformiste italien qui maîtrisait à merveille cette transformation en des fractions de secondes. Il arrivait à jouer plusieurs personnages dans des spectacles où il était lui le seul acteur à jouer 30, 40 personnes dans un seul spectacle avec toute une technologie de transformation, un staff autour qui l'aidait à faire ça. Et bon, ça m'amusait de lui donner ce nom. Parce que
c'est un clin d'œil.
C'est un petit clin d'œil. Voilà.
Je sens beaucoup de passion dans vos propos et ça ne m'étonne pas du tout parce que quand on connaît un petit peu la petite histoire qui entoure ce premier long métrage, il faut de la passion pour le porter, le transporter, le montrer parce que vous avez fait à peu près tout seul là, dans ce premier projet-là.
Ouais. Disons, j'étais quand même aidé, mais c'est clair que j'étais pas secondé ou aidé par un producteur qui aurait pu porter le film avec moi. Et puis porter un film, réaliser un film, c'est aussi le produire. Et la production est une tâche importante, essentielle à l'existence d'un film. Et ça, j'ai dû le faire moi-même, faute de producteur qui voulait se lancer avec moi dans ce projet. Mm-hmm. Et donc du coup, après, de fil en aiguille, j'avais un peu tous les problèmes qu'on peut avoir lorsqu'on produit un film. Pas seulement comme scénariste et comme réalisateur, mais aussi comme producteur qui doit trouver les fonds, qui va financer le film et qui doit essayer d'arriver au bout, même si les finances manquent. Donc ça, c'était, disons, un long parcours très, très disons, très instructif pour moi. J'ai appris énormément de choses. J'ai fait presque toutes les étapes du film. Donc,
Et vous en assurez presque le service après-vente aussi, parce que il n'y a pas de distributeur officiellement?
Ouais, ça a un petit peu changé maintenant, parce que depuis peu de temps, j'ai une vente internationale belge, la Big Family. C'est une maison jeune qui commence à s'occuper des longs métrages et puis qui ont choisi mon film. Donc, je serai aidé en principe par cette maison, mais c'est vrai, la distribution en Suisse, par exemple, on l'a fait nous-mêmes parce que les distributeurs suisses ne voulaient pas se mouiller, ne voulaient pas choisir le film. Donc, du coup, j'ai décidé de le porter moi-même en salle, d'aller voir les exploitants, les convaincre, la copie sous le bras, regarder mon film, je veux le porter en salle. Et finalement, ils étaient assez charmés par cette démarche très personnelle et très, ouais, très engagée. Je me suis complètement exposé avec ça et aussi beaucoup... Il y avait beaucoup de frottement aussi à tous les niveaux.
Ouais. Ben, j'imagine que l'écart va dorénavant vous servir de carte de visite. Ça va, j'imagine, aussi pouvoir vous ouvrir quelques portes pour la suite des choses.
Je l'espère.
Vous l'espérez. Vous avez déjà un autre projet de long métrage?
Oui,
vous avez déjà des trucs qui bouillonnent?
Oui, tout à fait. Je travaille sur plusieurs projets que je suis en train d'écrire et puis on verra comment ça va se présenter. Donc c'est encore ouvert.
Ben, Franz-Joseph Holzer, on vous souhaite encore une fois bienvenue à Toronto et vous revenez nous voir quand vous voulez avec le prochain film.
Avec beaucoup de plaisir.
Et je rappelle à nos auditeurs que le film, L'écart, est présenté dans le cadre de Ciné Franco dimanche à 15h30. Vous serez sur place et vous répondrez aux questions des
gens. Avec plaisir.
En général, ils vous posent des questions davantage sur le film ou sur la maladie mentale?
Quand même sur le film.
Oui, sur le film. Ouais. Parce que vous êtes en mesure de répondre aux questions. Vous êtes médecin aussi.
Oui, je peux aussi répondre un petit peu, mais ce n'est pas l'objectif du film de donner un cours de médecine. C'était de donner un plaisir de cinéma.
Alors, on s'inquiète quand même pas trop. Si ça marche vraiment pas comme cinéaste, vous avez d'autres ressources?
Bon.
Quelques-unes?
Ouais. Disons, je peux danser sur plusieurs pieds.
Ouais.
Un peu comme tout le monde, d'ailleurs.
Ouais, mais c'est le cinéma qui est visiblement votre numéro de claquette préféré.
Absolument.
Merci beaucoup, Franz-Joseph Holzer. Au revoir.
Au revoir.
Quand le chien meugle, l'ours barille, le chat hennit, et moi je glougloute, le lion bourdonne, l'âne clapit, le cochon rugit, et moi je chicote. Une chaise s'est assise sur